Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, en ce jour du troisième dimanche de l'Avent, donc le dimanche du milieu de l'Avent, je voudrais revenir sur une fête fondamentale dont j'ai pas eu l'occasion de parler. Cette fête, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Une des plus grandes fêtes de liturgique en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie, qui a été définie de façon solennelle, de façon infaillible, par le pape Pie IX, en 1854, le 8 décembre 1854. Le pape Pie IX a défini quelque chose qui était déjà cru dans l'Église. Le pape, vous le savez, n'a aucun pouvoir pour changer le dépôt de la foi. Son rôle, c'est simplement de garder le dépôt de la foi. Mais tout en gardant le dépôt de la foi, il peut et il doit, parfois, en quelque sorte, concrétiser des choses qui ont toujours été crues, mais qui n'ont pas forcément été déterminées comme dogme. Et donc, en 1854, donc 4 ans avant l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes, à Sainte Bernadette sous Birou, le pape Pie IX, infailliblement, déclare le dogme de l'Immaculée Conception. Voilà le texte. Le 6 des Ides de décembre de l'année 1854, dans la basilique de Vatican, au milieu d'une immense assemblée de pères et de la Sainte Église romaine, de cardinaux et d'évêques, venu même de contrées très lointaines, les plus lointaines, le pape, aux applaudissements de l'univers entier, proclama et définit solennellement que la doctrine qui tient la bienheureuse Vierge Marie pure et préservée de toute tache de la faute originelle, dès la première instant de sa conception, par un privilège et un don singulier de la faveur divine, a été révélée de Dieu et doit par conséquent être crue fermement et invariablement par tous les fidèles. Donc le pape rappelle quelque chose, encore une fois, qui était déjà cru par l'Église auparavant, à savoir que la Très Sainte Vierge Marie a été conçue sans la tache du péché originel. L'oraison que l'Église a composée pour cette fête est splendide. Ô Dieu, qui par l'Immaculée Conception de la Vierge Marie avait préparé à votre Fils une demeure digne de lui, daignez, comme vous l'avez préservé de toute tache, en prévision de la mort de ce Fils, nous accorder par son intercession de pouvoir pur, nous aussi, parvenir jusqu'à vous par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il faut bien préciser que cette définition est extrêmement importante de nos jours, surtout. De nos jours où la révolution cherche à tout salir, où la révolution cherche à tout détruire, à tout placer, si vous voulez, sous la destruction de l'humanité, sous la destruction de l'humanité, sous la saleté du péché, eh bien, il faut rappeler, envers et contre tout, la doctrine de l'Église. C'est le démon qui pousse à la destruction de la foi en l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Rappelez-vous les mensonges qu'il avait prononcés pour tenter Ève, puis ensuite Adam. Vous ne mourrez point de mort, car Dieu sait qu'en quelques jours que ce soit que vous en mangez de ce fruit défendu, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Et le bon Dieu avait déjà à ce moment-là, en punissant Satan, puis en punissant Adam et Ève, le bon Dieu avait annoncé la Très Sainte Vierge Marie. « Je mettrai, dit-il au démon, des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi tu lui tendras des embûches au talon. » La Très Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, est donc annoncée comme celle qui va briser le pouvoir du démon. Alors, essayons de reprendre un petit peu les raisons, si vous voulez, de cette fête extraordinaire. Pourquoi ces vérités déterminées par l'Église, par cette fête de l'Immaculée Conception, pourquoi ces vérités sont-elles tellement importantes aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'on peut surtout prendre trois raisons. La première de ces raisons, c'est que la fête de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, rappelant que cette Immaculée Conception est un privilège que seule la Très Sainte Vierge Marie a reçu, et bien sûr son divin Fils. Donc ce privilège rappelle que tous les hommes, eux, naissent avec la marque du péché originel. Tous, sauf la Très Sainte Vierge Marie et sauf notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, dans son humanité. S'il fallait donner une explication philosophique de tout ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui se passe surtout actuellement dans l'Église de Vatican II qui nie justement de plus en plus tous ces dogmes essentiels de la foi catholique, il faudrait dire que c'est tout simplement le fruit d'un naturaliste qui nie le péché originel. Un des dogmes de foi les plus importants, tous les dogmes sont importants, mais un des dogmes les plus importants, c'est le dogme du péché originel. S'il n'y avait pas eu le péché originel, c'est la doctrine de saint Thomas d'Aquin, s'il n'y avait pas eu de péché originel, Dieu n'aurait pas eu besoin de s'incarner. Il a dû s'incarner, prendre chair, devenir un petit enfant, un petit homme, dans le sein très pur de cette sainte mère, précisément à cause du péché originel. Donc il faut rappeler l'existence du péché originel. Surtout à un moment où le pontife de l'Église de Vatican II, Bergoglio, le nie de façon éhontée, sans même devoir maintenant se cacher. Quand il dit que les musulmans, par exemple, il l'a dit publiquement, quand il dit que les musulmans sont des enfants de Dieu, il nie le péché originel. Parce que l'Église catholique enseigne justement que tous les hommes sont des créatures de Dieu. Les musulmans sont des créatures de Dieu comme tout le monde, comme nous aussi. Mais précisément à cause du péché originel, les musulmans ne sont pas créatures de Dieu, mais ne sont pas des enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas baptisés. Et puisque le péché originel a infecté tous les hommes, il faut donc le baptême pour retrouver cette amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'existence du péché originel est fondamentale, parce que si le péché originel n'existe pas, il n'y a plus besoin de baptême. Et s'il n'y a plus besoin de baptême, il n'y a plus besoin de sacrements, il n'y a plus besoin de l'Église, tout simplement, il n'y a plus besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc rappelons avec force et avec netteté que le péché originel a malheureusement contaminé tous les hommes, sauf la Très Sainte Vierge Marie et son divin Fils. Et donc l'Immaculée Conception est un privilège unique réservé à celle qui de toute éternité a été choisie par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu, pour devenir sa mère. Le deuxième point de doctrine qu'il me semble devoir défendre aujourd'hui plus que jamais, parce que c'est un autre point qui est défini par l'Église, mais qui est en même temps constamment attaqué par l'Église de Vatican II, c'est le fait que le péché originel attaquant l'âme de tout homme, la grâce sanctifiante n'est pas une partie de notre nature. Dieu a créé les anges en état de grâce. Un tiers d'entre eux a perdu cet état de grâce en faisant le mauvais choix. Mais Dieu a créé, s'il a créé les anges en état de grâce, le bon Dieu n'a pas créé les hommes en état de grâce. Il crée les hommes dans un état de nature, avec un corps et une âme. Une âme qui est la forme du corps, une âme avec des pouvoirs particuliers, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. Et la grâce sanctifiante n'est donc pas quelque chose qui est attaché à la nature humaine comme quelque chose faisant partie de cette nature de façon inhérente et qui ne peut pas être détruite. L'Église de Vatican II, comme vous le savez sans doute, nie ce point essentiel et prétend que la grâce sanctifiante, la grâce de Dieu, est une partie de notre nature. De même que tout homme, disent-ils, a un corps et une âme, tout homme, par son âme, à la grâce sanctifiante, qui fait partie de cette nature humaine, et donc personne ne peut ôter cet état de grâce à la nature humaine. Comme l'état de grâce est nécessaire pour aller au ciel, tous les hommes ayant cet état de grâce, tous les hommes sont donc ipso facto, de par cet état de grâce qui est attaché à leur âme, tous les hommes sont donc des enfants de Dieu, et étant des enfants de Dieu, tous les hommes seront sauvés. Eh bien non, c'est faux. La grâce sanctifiante est un accident qui se rattache à l'âme et qui est donné par le baptême. Un homme sans âme, ça n'existe pas. Tous les hommes ont une âme. Mais tous les hommes ne sont pas en état de grâce. Seuls ceux qui sont baptisés reçoivent l'état de grâce. Et ils peuvent malheureusement perdre cet état de grâce par le péché et le recouvrer par une bonne confession, un acte de contrition parfaite. Voilà l'enseignement de l'Église. Il faut que les choses soient claires de ce côté-là. Donc la grâce sanctifiante n'est pas naturel à l'homme, comme le prétendent tous les philosophes modernes et surtout tous les, encore une fois, les faux pontifs de l'Église de Vatican II. La grâce sanctifiante est surnaturelle. L'âme est naturelle à l'homme, dans le sens qu'une nature humaine sans âme n'existe pas, mais la grâce est surnaturelle parce que c'est un don gratuit de Dieu qui est rajouté sur l'âme par Dieu le jour du baptême. Donc pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les musulmans sont des créatures de Dieu, parce qu'ils sont des hommes, tous les hommes sont des créatures de Dieu. Étant des créatures de Dieu, bien sûr, tous les musulmans ont une âme, comme vous et moi. Mais les musulmans n'ayant pas le baptême n'ont pas la grâce sanctifiante. Or, la grâce sanctifiante est nécessaire au salut. Voilà pourquoi l'Église catholique a envoyé dans le monde entier pendant des millénaires, justement, des missionnaires qui sont partis dans le monde entier pour prêcher à temps et à contre-temps cette vérité essentielle. Pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ leur a fait dire « Allez, prêchez, baptisez !» Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, cependant le baptême efface le péché originel. Donc le baptême rend la grâce sanctifiante immédiatement. Le baptême efface le péché originel, c'est vrai, mais le baptême donne la grâce sanctifiante, cela est vrai aussi, mais cependant le baptême ne donne pas une grâce sanctifiante qui va rester attachée de façon définitive à cette âme, puisque malheureusement à cause de notre liberté, nous pouvons perdre cette grâce sanctifiante. La liberté, c'est quoi? C'est simplement le pouvoir que nous avons de choisir le chemin le plus court pour aller au ciel. Mais on peut malheureusement refuser ce chemin le plus court et choisir un chemin qui ne mène pas au ciel. Et c'est ce qui se passe. En plus de ça, il ne faut pas oublier que les choses deviennent de plus en plus compliquées pour nous, parce que si le baptême efface le péché originel, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, bien entendu, si le baptême efface le péché originel, le baptême n'efface pas les blessures du péché originel. Et les quatre puissances de nos âmes dont je viens de vous parler sont contaminées. Même après le baptême, les quatre puissances de nos âmes sont contaminées. L'intelligence est contaminée par l'ignorance, la volonté est contaminée par la faiblesse, l'irascible est contaminée l'intelligence est contaminée par l'ignorance, la volonté est contaminée par la malice, pardon, l'irascible est contaminée par la faiblesse et le concupiscible est contaminé par la concupiscence. Et ceci pour tous les hommes, sauf, encore une fois, la très sainte Vierge Marie et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Cela montre bien justement que la vie sur la terre est devenue un combat, et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé, Dieu l'a annoncé à Adam et Ève. Il y aura un combat. Je mettrai une inimitié entre toi, le démon, et ta famille, ta descendance, et la descendance de la femme avec un F majuscule. La femme avec un F majuscule, c'est la mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Enfin, le troisième point essentiel, c'est savoir remonter aux sources. Si la très sainte Vierge Marie a été choisie pour avoir ce privilège extraordinaire de l'Immaculée Conception, donc son âme n'a jamais été contaminée par le moindre péché, Elle n'a pas l'ignorance, elle n'a pas la faiblesse, elle n'a pas la malice, elle n'a pas la concupiscence, elle n'a pas le moindre mauvais désir en elle, elle n'a pas le moindre péché véniel en elle, elle n'a pas le moindre péché de fragilité en elle. Tout est parfait en elle, précisément parce qu'elle a été choisie pour Dieu à cause du fait qu'elle allait devenir un jour la mère de Dieu. Et le plus grand privilège de la Très Sainte Vierge Marie n'est pas l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, je dirais, est une conséquence du privilège essentiel qui est celui de la Très Sainte Vierge Marie, à savoir sa divine maternité. C'est parce que la Très Sainte Vierge Marie a été choisie de tous les temps, de toute l'éternité, de toute éternité par le bon Dieu pour devenir la mère de son divin Fils, pour être celle qui allait recevoir en son sein la deuxième personne de la Très Sainte Trinité incarnée, et la deuxième personne de la Très Sainte Trinité qui dans sa divinité, allait unir l'humanité, eh bien la Très Sainte Vierge Marie étant ainsi la Mère de Dieu, évidemment, il fallait que cette humanité soit parfaite, l'humanité qui allait être donnée par la Très Sainte Vierge Marie à son divin Fils, est une humanité parfaite, donc non marquée par le péché originel. Elle est mère de Dieu, et c'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle devait être aussi Immaculée Conception. Oui, mais bien chers frères, comment cette doctrine toute simple, c'est la doctrine de l'Église catholique, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, comment cette doctrine nous aide à comprendre l'importance fondamentale de l'union nécessaire entre nous et Dieu par la grâce sanctifiante, et aussi l'importance fondamentale pour nous de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Les deux choses sont nécessaires au salut. On ne peut pas aller au ciel sans avoir en nous la grâce sanctifiante, parce que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils ont une âme, ils doivent être aussi à la ressemblance de Dieu le jour où ils meurent, ils sont à la ressemblance de Dieu par la grâce sanctifiante. Et la deuxième chose, avec la grâce sanctifiante, une deuxième chose est nécessaire, l'amour de la Très Sainte Vierge Marie. On ne peut pas aller au ciel sans aimer la Sainte Vierge, c'est impossible. Donc ces trois choses, mes bien chers frères, doivent être aujourd'hui expliquez à nos enfants, parents qui m'écoutaient sur internet, expliquez ces choses-là à vos enfants. Expliquez ce qu'est le péché originel, expliquez-leur que le péché originel a marqué d'une façon négative les puissances de l'âme, de toutes les créatures de Dieu, que même le baptême, s'il détruit le péché originel, ne détruit pas les blessures, et que notre âme est contaminée de façon définitive ici-bas sur la terre par ces quatre blessures, et que donc on a besoin du bon Dieu. Expliquez-leur que le baptême est nécessaire pour nous parce qu'il fait de nous des enfants de Dieu, va nous permettre de recevoir la grâce sanctifiante, la vertu de charité, et la première des choses que donne le baptême donne la charité, puisque la charité est incompatible avec le péché, le baptême va effacer donc dans l'âme du bébé qui est baptisé le seul péché qu'il a, savoir le péché originel, mais les blessures demeurent. Donc la grâce sanctifiante n'est pas une partie de notre nature, c'est un cadeau que nous fait le bon Dieu le jour de notre baptême, et qu'il faut garder ce cadeau comme quelque chose de tellement important qu'il faut tout faire pour nous battre, pour conserver ce cadeau. La chose la plus importante que nous avons à protéger dans la barque de notre âme, c'est la grâce sanctifiante, l'amitié avec le bon Dieu. L'union dans notre âme, entre la nature de notre âme, je dirais, et notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième chose, donnez à vos enfants une dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Qu'ils aiment la Sainte Vierge, qu'ils aiment la prier. Notre âme devient la mère de Dieu justement pour pouvoir nous apporter notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ devient homme pour que l'homme puisse s'élever jusqu'à Dieu par la grâce sanctifiante. Si la Très Sainte Vierge Marie n'avait pas accepté de devenir mère de Dieu et nous apporter l'enfant Jésus, eh bien nous ne pourrions pas nous sauver, nous serions tous en enfer. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce absolument insigne, absolument fondamentale. La grande ennemie du démon, c'est la Très Sainte Vierge Marie. La grande protection pour le chrétien au XXe siècle, surtout au XXIe siècle, pardon, c'est la protection de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Elle est comme une chef d'armée rangée en bataille. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut comprendre. La Très Sainte Vierge Marie a justement cet extraordinaire privilège justement d'être celle que le bon Dieu a choisie pour nous protéger. Donc, disons souvent cette, ces paroles du « Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Demandons, mes bien chers frères, la compréhension de ces grands mystères, au moins en partie, on ne peut pas tous les comprendre, un mystère est incompréhensible par définition. Demandons au bon Dieu de nous donner toutes ces grâces pour que la Très Sainte Vierge Marie soit toujours avec nous. Elle sera comme un scapulaire pour nous, protection par devant, protection par derrière contre les flèches du démon. Et au moment où tout s'écroule, nous sommes dans une société actuellement, pratiquement en France au moins, nous sommes dans une société qui est pratiquement au bord de la guerre civile. Pourquoi on est au bord de la guerre civile? Les gens vont vous dire, vous êtes au bord de la guerre civile parce qu'il faut se battre pour préserver notre pouvoir d'achat. Bien sûr qu'il faut préserver notre pouvoir d'achat, mais c'est tout à fait secondaire, on est au bord de la guerre civile, parce qu'on a mis dehors de la, en dehors de la société le seul, la seule personne capable de maintenir la cohésion de cette société, à savoir le bon Dieu. On a mis le bon Dieu dehors, on voit que tout marche correctement. Comment voulez-vous que les choses marchent si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi de cette société, n'est plus là? Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est roi de la société parce qu'il est créateur, qui est roi de la société parce qu'il est rédempteur, si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, qui est notre Maître, qui est notre Guide, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas notre roi, c'est le démon qui sera le roi de notre, nos âmes et de notre société. Si le démon devient le roi de notre société, comment voulez-vous que ça marche? Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie qu'elle devienne celle qui est auprès du roi. S'il y a un roi et une reine, demandons à notre Sainte Vierge Marie qu'elle devienne la reine de nos cœurs, la reine de nos familles, pour que justement notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner en nous par sa grâce sanctifiante et par la présence bénie de sa très sainte mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.